Wow, est-ce que vous le croyez? Vous le croyez? C'est bon. Alors Dieu va faire encore des grandes choses. Il a besoin simplement de notre foi. Hein. Il s'agit de ne pas faire l'œuvre à sa place, simplement croire que lui veut le faire. Et vous le verrez s'accomplir, c'est ce que la Bible dit. On est en novembre. Vous aimez novembre? À part ceux pour qui l'anniversaire est en novembre ou bien qui ont vraiment un très bon souvenir en novembre, quelques-uns dans la salle. Les autres, novembre, ce n'est pas un mois facile parce que c'est un début d'hiver. Dans notre tête, ce n'est pas officiellement l'hiver, mais ça y ressemble. Et en novembre, c'est très important par rapport à votre morale d'être bien entouré. Alors, on va commencer une série. Le thème, c'est l'entourage, mon entourage, ton entourage. On ne choisit pas sa famille. Vous êtes d'accord avec ça? Votre famille, elle vous est donnée à la naissance. C'est votre famille. Mais on peut choisir ses amis. Il y a une partie de l'entourage qui tourne autour de vous, de ces personnes qui tournent de vous, qui vous est imposée, et vous ne pourrez rien faire pour changer cela. Puis il y a une partie de votre entourage que c'est vous qui allez mettre en place ces personnes-là, donner le pouvoir à ces personnes-là d'avoir cette influence sur vous, et c'est votre responsabilité de bien choisir votre entourage. On va voir sur la vie de David, le roi David. Cette série commence, on va se retrouver les 4 prochains dimanches. Je ne serai pas là le premier dimanche de décembre, mais tout en novembre, je serai là et on terminera mi-décembre une série de 5 messages sur David, l'entourage, mon entourage. Comment avoir des personnes autour de nous qui sachent bien nous porter vers le haut. Premier message, ce sera aujourd'hui la famille. Ensuite, on verra l'entourage qui est le travail. Ensuite, on verra le couple, le conjoint. Ensuite, on verra les amis qui nous amènent vers le haut. J'espère que vous en avez quelques-uns. Et on verra enfin ceux qui nous amènent vers le bas. Alors la famille. Vous êtes partis aujourd'hui, c'est bon? Vous me suivez, la famille. Sous-titre, et la belle famille. Parce que des fois, la famille, c'est quelque chose, mais la belle famille, pour ceux qui ont un peu d'expérience dans la matière. Alors, pour David, sa famille dans laquelle il est né était dysfonctionnelle. C'était une famille conflictuelle. Mais j'ai une bonne nouvelle, il s'est marié et sa belle famille était pire. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Une famille conflictuelle et une famille dysfonctionnelle. Beaucoup, dans le cas de David, seraient dévorés par l'amertume, une colère intérieure, ses frustrations et seraient passés à côté de la vie. Ce qui est extraordinaire, et c'est ce que je voudrais que le Saint-Esprit arrive à vous dire aujourd'hui, c'est comment se fait-il que David ait réussi à prospérer dans un environnement aussi hostile? C'est parce qu'il a su refuser de se laisser gangréner par l'amertume, par les frustrations et par une colère intérieure. Il a laissé tout ça de côté et il a choisi de retenir le meilleur. De voir dans cette famille conflictuelle qu'est-ce qu'il avait de meilleur et de retenir le meilleur. Et de voir sa belle famille et de choisir, parce que c'est un choix, de choisir de retenir le meilleur. Il n'a pas choisi sa famille, il n'a pas choisi sa belle famille, mais il a choisi de retenir le meilleur. Seigneur Jésus, aide-nous en cet instant à faire le tri dans nos pensées, moi personnellement, à faire le tri entre des phrases qui viendraient d'un homme et celles qui viennent de la parole de Dieu. Je te demande toute autorité qui serait sur les mots que Dieu veut prononcer sur la vie d'une femme aujourd'hui, d'un homme qui a fait le déplacement. Seigneur, ils donnent leur dimanche après-midi pour être là dans ta maison. Je te prie de leur parler. Seigneur, je me suis préparé pour ça, mais je veux maintenant que tu prennes ma bouche pour que le Saint-Esprit donne, ne serait-ce qu'une parole du ciel qui fasse la différence. C'est au nom de Jésus que je te le demande. Amen. Amen. On est parti. 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. La première fois où l'on doit entendre parler de David, il n'est pas là. Premier point, une famille conflictuelle, mais je voudrais parler d'un climat familial explosif. Un climat familial explosif. Vous êtes dans 1 Samuel 16, un climat familial explosif. 1 Samuel 16, verset 4. C'est la fête. Ce jour-là, c'est la fête. Parce que le prophète Samuel, c'est l'homme de Dieu que tout le monde espère avoir dans sa maison. il n'y a qu'un seul juge en Israël, c'est le prophète Samuel. Il est rempli de l'Esprit de Dieu, il est considéré comme une sommité, comme l'autorité morale. Quand Samuel est quelque part, le village fait la fête parce que la bénédiction de Dieu est là. Et ce jour-là, on annonce aux responsables d'une petite ville, d'un petit village de Bethléem, de Juda qui s'appelle Bethléem. Pas grand monde le connaît jusqu'à présent, mais ce petit village de Bethléem va être comme le sujet du phare de Dieu qui va être mis sur le petit village. Parce que dans cette ville de Bethléem, il y a une famille, la famille d'un certain Isaïe. Et Isaïe, c'est un homme qui a plein d'enfants. Plus précisément, il a 7 fils qu'il va présenter à Samuel. Parce que quand Samuel annonce, Samuel précise bien, il dit « Attention, voilà quel est mon objectif. C'est quelque chose de bon. » Au verset 5, « Je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Purifiez-vous et venez ensuite avec moi au sacrifice. » Il demanda également à Isaïe et à ses fils de se purifier en les invitant à prendre part au repas du sacrifice. À leur arrivée, il remarqua Éliab et se dit « Certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel, qu'il a choisi de donner l'onction, etc. » Vous connaissez un petit peu l'histoire ? Samuel vient parce que Dieu lui a dit « J'ai encapsulé une bénédiction spéciale, un projet particulier pour un fils d'Isaïe. Tu vas te rendre à Bethléem et tu vas faire la fête. » Mais le vrai objectif, c'est qu'il y ait David à cette fête. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'il y ait une fête de Noël où toute la famille est conviée, sauf vous ? Parce qu'en fait, ce n'est pas 7 fils qu'a Isaïe. Isaïe, il en a 8. Sauf que David est le 8e et qu'il n'est pas là parce qu'il n'a pas été invité. On a volontairement refusé, alors qu'il a bien eu l'invitation de la part du prophète. Le prophète a dit « Vous invitez tous les fils ». Et volontairement, je ne sais pas si c'est les grands frères qui ont fait ça, je ne sais pas qui a fait ça, je ne sais pas si c'est la maman, la belle-maman, quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui a pris le faire-part de David et qui l'a mis à la poubelle. Pour être sûr que David ne soit pas au bénéfice de ce qui va se passer. Mais quand Dieu a décidé de te bénir, il peut faire des plans, il peut faire des stratégies dans ta famille pour te mettre à l'écart. Ce que l'Éternel a décidé s'accomplira. Tous les calculs, les stratégies familiales, les cancans, les combines, les ragots, si l'Éternel a décidé que ça serait comme ça, ils perdent leur temps. D'ailleurs, Samuel va leur dire, « Mais est-ce que ce sont là tous tes fils ?»« Non, répondit Isaïe, il reste encore le plus jeune qui garde les moutons au pâturage. »« Eh bien, envoie le chercher, ordonna Samuel, car ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice avant qu'il ne soit arrivé. » Dieu a mis feu rouge pour tout le monde tant que vous n'avez pas été le chercher. C'est bon de savoir que Dieu ne va pas faire la fête sans toi. Dieu a décrété des choses sur ta vie et tant que tu n'es pas là, il bug tout le monde. C'est beau quand même. Normalement, c'est le moment où tu devrais dire « Ouh, c'est bien Seigneur !» Bon, alors je me pose quand même cette question. J'essaye de réfléchir. Je connais beaucoup de familles. Et je vois, mais je pense que c'est interculturel. Alors, je me projette avec ma famille occidentale, mais j'ai l'impression quand même, je ne sais pas s'il y a des mamans qui ont eu beaucoup d'enfants dans la salle ou des enfants qui sont d'une famille nombreuse. J'ai l'impression que les petits derniers, bon, ont tendance quand même à être plus gâtés ou du moins les parents, la plupart du temps, enfin nous, ma famille en tout cas, s'assouplissent. Florence, si tu entends ce message, je suis désolé de donner. Mais j'ai l'impression, moi, que, enfin mes parents, c'était comme ça, que le premier, c'était « fallait au carré », et puis après, ça devenait un peu plus cool, maman et papa prenant un peu d'âge, bon. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette famille pour que le dernier, là, on l'amène au champ, là ? Les grands frères l'excluent. Le père dit rien, c'est un truc qui colle pas. Et je me suis dit, il y a une histoire là-dessous. Alors, si vous permettez, j'ai un petit peu gratté. Et je me suis dit, Seigneur, est-ce que tu, ce truc louche là-dedans, qu'est-ce que tu nous as laissé des indices pour nous faire comprendre pourquoi David aurait été marginalisé ? Alors, il y a quelques indices. Le verset 12, lorsque David arrive, regardez ce que Isaïe dit. Isaïe le fit venir donc. C'était un garçon aux cheveux roux, avec de beaux yeux, il avait une belle apparence. Et l'Éternel dit à Samuel, « Vas-y, confère-lui l'onction. » Qui c'est qui, dans cette salle, levez la main à quelqu'un dans votre famille qui a des cheveux roux ? Merci, vous êtes deux. Ouais, non, mais c'est très bien. Et vous savez, là, on est à peu près 150, il y a deux ou trois. Et c'est exactement ça. On est entre 1 et 2%. Et vous savez, vous allez dire, oui, mais Yvan, c'est parce qu'on est une église avec des Antillais, une partie africaine, donc c'est plus rare. Oui, non, mais attendez, moi, je suis en train de parler d'un endroit où c'est au Moyen-Orient, hein, en Palestine. Vous en connaissez beaucoup de roues en Palestine, vous ? Donc c'est pareil qu'ici. Donc c'est très rare. Alors ce qui est très étonnant, c'est que le premier, c'est un musclor basané. Le deuxième, un musclor basané. Le troisième, un musclor basané. Tous des Méditerranéens. Et le petit dernier, alors deux façons en hébreu, hein. Roux peut dire soit les cheveux roux, soit la peau, c'est-à-dire que c'est les poils de carotte. Non mais on le remarque, quoi. Bon, je dis, c'est un hasard génétique de la nature. Allez, on y va pour le hasard. Sauf que, un petit peu plus loin, dans 1 Samuel 17, verset 12, je n'ai pas le temps de tout lire, mais il est dit que papa était très vieux et que David était très jeune. D'accord ? Un deuxième indice bizarre. Et troisième, quand je lis le psaume 51, quand David pleure après avoir péché et qui parle de son enfance et de sa naissance, il dit « Ma mère m'a conçu dans le péché ». Alors, ce n'est pas que je veux voir le mal partout, mais il y a une explication possible à ce qui s'est passé sur David. Et je ne sais pas si c'est parce que je suis un peu macho, mais je me suis dit « Waouh ! La maman, elle a fait le bébé dans le dos ». Mais non. Parce que c'est pas la maman qui doit plus être toute jeune qui va faire un bébé à 60 ans toute seule dans un coin. Avec un autre homme. Non. Mais par contre, et ça, il n'y a pas qu'au Moyen-Orient, parce que je pense que ça existe. Il existe que les hommes peuvent avoir des enfants un peu plus tard que les femmes. Et que les hommes, des fois, quand l'âge avance, et qu'ils sont encore en forme, et qu'il y a une jolie jeune fille, un peu paumée à l'époque, qu'il y avait un problème d'ascension sociale, je dis, waouh, c'est peut-être ça. Je ne suis pas sûr. Mais ça expliquerait pourquoi deux choses. Pourquoi les frères ne l'acceptent pas? Parce que c'est le petit dernier qui n'est pas né avec maman, mais c'est bien le fils d'Isaïe. Mais ils n'ont pas forcément la même mère. Et ça expliquerait les cheveux roux, bref, qui est un peu différent. Et puis surtout, si les frères le mettent de côté, on comprend du coup, parce que c'est comme vous rappelez l'histoire de Jacob. Avec les fils, Joseph, tout ça. C'est la même histoire peut-être. Et il y avait toujours le mépris et il ne voulait pas. Et ça ressemble énormément, énormément. Et ça expliquerait aussi pourquoi je me suis dit, mais pourquoi Isaïe ne met pas David en avant si c'est le dernier ? Parce que peut-être il n'en est pas fier. Et je ne comprends pas quelle est l'autre explication pourquoi Monsieur Isaïe, quand il présente toute sa famille, il en oublie un. Peut-être il l'oublie parce qu'il n'a pas envie de le montrer. Et ça expliquerait peut-être que papa n'a pas envie que... Ah mais Esaïe, t'es plus tout jeune là. C'est quoi le petit dernier là qui a 15 ans? Tu vas pas me faire croire que c'est maman qui a 62 aussi, qui a eu le bébé, je sais pas quoi. Ah ouais, bon, je sais pas. Donc Esaïe l'a peut-être caché. En tout cas, une chose est sûre. Que cette hypothèse soit vraie ou pas, la vérité, et je sais pas quel est ce qui concerne ta famille, mais la vérité, c'est que Dieu ne va absolument pas punir David pour cela. Et au contraire, Dieu n'en a rien à faire des circonstances de ta naissance. Parce que Jésus est venu dans une famille de Rahab la prostituée. Il est né dans une famille dysfonctionnelle. Quand vous regardez la généalogie, Dieu aime restaurer des situations qui partent mal. Et Dieu avait les regards sur David, même si ses frères l'excluaient, même si son père le cachait, même si c'était l'enfant qui devait ne pas être montré et on le dégageait au champ. Eh bien, Dieu veillait sur David. Et David, voilà ce qu'il a choisi de faire. Plutôt que de laisser de l'amertume se développer dans son cœur, il a choisi de louer Dieu. Et quand vous comprenez ce que faisait David pendant ces grandes heures de solitude, parce que d'être le huitième d'une famille, normalement, vous devez avoir plein de frères. Et vous passez toutes vos journées seuls dans des champs. Ça ne doit pas être facile, vous voyez. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et David prenait sa harpe Et alors qu'il était au milieu des champs, il composait des louanges à Dieu, qui plus tard seront appelées des psaumes. Voilà ce que David faisait. Plutôt que d'avoir de l'amertume, il avait choisi de louer plutôt que de maudire. Et moi, je sais que dans ton cœur, l'adversaire de ton âme veut planter une graine d'amertume pour dire « Regarde, ta famille ne te reconnaît pas, ta famille t'a marginalisé, ta famille te méprise. » Si tu laisses ça se développer, tu sais ce qui va se passer? Tu vas pleurer. Et l'amertume, c'est comme un petit gland. C'est trois fois rien au départ. Ça va tomber dans le terreau de ton cœur. Et avec tes larmes, en pleurant sur toi-même, « Ils ne me connaissent pas. » Tu vas nourrir ça. Pourquoi mon père m'assume pas? Pourquoi mes frères m'invitent pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Et si tu ressasses ça, le petit gland là, arrosé, il va grandir, il va sortir, tu vas voir un petit chêne. Si tu le déracines pas quand c'est petit, c'est pas à 48 ans que tu vas déraciner un chêne qui fait 20 mètres de haut. Je connais des adultes qui aujourd'hui vivent une vie misérable, avec une famille qui effectivement était dysfonctionnelle au début, mais ils ont laissé l'amertume grandir dans leur cœur, et Satan leur a volé leur jeunesse, mais Satan leur a volé aussi leur vie d'adulte. Et je connais un homme qui s'appelle David, qui a commencé dans un climat dysfonctionnel, qui a arraché toute racine d'amertume au départ, qui a choisi de louer Dieu et de construire des psaumes plutôt que de faire des stratégies pour essayer de se faire accepter par ses frères. Alors j'arrive au deuxième point de cette partie d'une famille dysfonctionnelle. Vous êtes toujours là, c'est bon? Vous digérez pas, non hein? C'est bon? Va digérer le message, mais rien que ça. Deuxième point, après le climat explosif, une étincelle. Boum ! Ça se passe dans 1 Samuel 17. Regardez ce qui se passe. Papa, qui est un petit peu gentil, papa Isaïe, il est plutôt jeune, vous voyez, certainement il essaye de faire tourner sa famille, puis il se dit, c'est certainement une bonne idée, il dit à David, « David, mon petit chéri, amène des victuailles, amène de la viande, amène des gâteaux pour tes frères et sœurs. » Pour tes frères qui sont au combat, amène-les. » Alors du coup, David, il obéit, il est gentil, et il fait l'effort de marcher pendant des kilomètres pour apporter un gros sac de nourriture et d'encouragement pour les 7 frères qui sont au combat. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tenter un acte gentil, même quand les autres vous méprisent? D'essayer de... Vous faites des efforts, vous marchez un petit peu sur votre orgueil et vous dites, « Bon, allez. Je vais passer au-delà de tout ça, je vais quand même appeler la tata. » Il fait l'effort de décrocher le téléphone, il vient avec des remerciements, avec des gâteaux. Comment il va être accueilli? 1 Samuel 17. Lorsque son frère aîné, verset 28, Eliab, l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui. « Que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu n'es venu que pour voir la bataille. » En 3 phrases, il plante dans le dos de David tchic, des banderilles. Tchic, tchic. Et théoriquement, là, c'est là où quelqu'un qui ne laisse pas Dieu le guérir et Dieu le laisser être bienveillant, explose de colère. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Regardez, mettez-vous à la place, vous essayez de voir quelqu'un dans votre famille, vous faites l'effort, vous lui amenez des cadeaux, vous lui amenez de la gentillesse, vous lui amenez des paroles de bénédiction, et il vous reçoit en disant, « Mais dégage, t'as rien à faire ici! Viens pas me chercher! Non, mais je suis venu pour renouer le dialogue. Mais dégage, j'ai pas envie de ton dialogue! » Ok. Ça, c'est la première. Mais Eliab, gratuitement, plante une deuxième banderie. Et il dit, tu sais, ton job, là, t'as un job, pardonnez-moi l'expression, t'as un job de bouseux. Toi, t'as quelques moutons au milieu de la steppe. T'as un job nul et tu gagnes rien. Donc, quand tu seras devenu quelqu'un, tu reviens nous voir, d'accord? Mais tant que tu fais pas plus que ce que tu gagnes par mois, eh ben, tu prétends même pas nous parler, tu vois. Parce qu'on a beau avoir le même père, on n'est pas de la même condition. Donc tu retournes auprès de tes quelques moutons. C'est le quelques qui est très humiliant. Il aurait pu lui dire, oh là là, c'est... Vous savez, quand vous faites des efforts et que l'autre vient et commence à attaquer votre vie privée ou tous les efforts que vous avez fait des efforts de travailler pour avoir cet appartement et votre sœur qui est là-bas aux Antilles et qui profite de la grande villa familiale, elle dit, mais ton appartement, Mais t'es dans ton 53 mètres carrés, mais nullissime à Vitry, mais ma pauvre, mais t'as raté ta vie. Attends, mais je t'appelais pour te faire du bien, moi. Là, il y a plein qui raccrochent déjà. Il reste calme. Il reste calme. Et il y a une troisième banderie. Il lui dit... Alors, moi honnêtement, je crois que les deux premières, quand je suis spirituel, j'arrive à peu près. Mais alors, la troisième me fait souvent exploser. Hein. Le faites pas, hein. Me faites pas exploser pour voir si je... Bon. Mais elle dit, je sais, parce que je te connais bien, petit prétentieux, je sais ce que tu penses. Quand l'autre te prête des intentions mauvaises, t'es venu avec un bon cœur et l'autre pense à ta place et tu dis, non, mais je sais exactement ce que toi tu penses. Non, non, mais je t'explique, là, tu connais rien, là. Les quelques conflits qu'on peut avoir avec Nathalie, mais vous lui dites pas, c'est quand elle dit, Yvan, je pense que tu penses. Elle dit, ah non, non, pense pas. Tout ce que tu veux, mais pense pas pour moi. Et parce que, en fait, quand l'autre vous porte des idées, là pour le coup, en plus, pour Eliab, il lui projette ses mauvaises pensées à lui. Peut-être que Eliab, il a un problème avec l'orgueil. Il n'a pas digéré que son frère ait été béni. Et il va dire, ouais, t'es un petit prétentieux et tout. Donc, il projette, sache que dans ta famille, des fois, ils vont projeter sur toi ce qu'ils vivent, eux. Et si tu le prends au premier degré, tu dis, mais t'es horrible! Et c'est ça qu'il aurait pu dire, David. Et puis tu commences à essayer de dire, mais je vais t'expliquer, c'est pas vrai! Et là, tu pars dans une discussion qui n'en finira pas. Et tu changeras personne, donc je te donne une première leçon spirituelle, renonce à changer l'autre. J'ai pas eu d'amen, donc je vais le redire. Je me jette, hein! Renonce à changer l'autre. C'est beaucoup mieux. Maintenant, il faut le mettre en pratique. Eliab, David, vit mal la situation. Il projette sur toi des choses qui sont certainement dans son cœur. Ne réponds pas avec le mal pour le mal. Et David va dire, et il va être très très sage, ce jeune gars, il va dire, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Est-ce que je n'ai pas le droit de parler maintenant? Bon, bah écoute, puis il tourna le dos de son frère et alla se renseigner auprès d'un autre. Je prêche pour les hommes, mais je prêche aussi pour les femmes. Tu as des bons arguments, tu peux essayer de changer le truc, mais arrête l'idée que tu vas pouvoir convaincre l'autre sur une dispute à chaud, c'est pas vrai. Eliab n'est pas prêt à entendre des vérités. Donc ne t'excuse pas, n'explique pas, ne te justifie pas, ne critique pas, ne maudis pas, ne t'énerve pas et ne mets pas Dieu là-dedans. Il y en a un qui va mettre Dieu là-dedans. Parce que quelques minutes après, ah, vous savez ce que David va faire? Au lieu de parler, de se justifier et de perdre des heures et de l'énergie à rien faire, il va dire, écoute, la seule chose qui m'intéresse ici, c'est qu'il y a en face de nous un vrai combat qui n'est pas le combat contre Eliab. Eliab, ce n'est pas ton ennemi, c'est Goliath. Ne te trompe pas de combat. Et David va rester focalisé. Le vrai combat, ce n'est pas son frère, c'est Eliab. C'est Goliath. Ce n'est pas contre la chair et le sang que tu as lutté, mais contre des puissances dans les... Bon, t'as compris. Ne te trompe pas de combat. L'adversaire veut que tu t'énerves contre Eliab alors que le problème, c'est Goliath. Si tu te bats contre Eliab dans les tranchées, tu ne pourras pas battre Goliath après. Et David va rester très fixé. Il va dire, écoute, moi je suis là parce que vous êtes menacé de mort par un gars qui est un géant qui vient de l'adversaire et c'est lui que je vais combattre. Et il va même aller plus loin, il va dire, je suis petit et j'ai qu'une fronde et quelques pierres. Mais j'ai la puissance de l'Éternel avec moi et je ne me trompe pas de combat. Et c'est pour ça que je te dis en cet instant, Eliab, tu mérites peut-être pas ce que je vais faire pour toi, mais je suis prêt à me sacrifier et à mourir sur le champ de combat pour que vous n'ayez pas besoin de le faire. Là aussi, théoriquement, on pouvait espérer un amen. Mais c'est normal, vous réfléchissez beaucoup. Est-ce que quand quelqu'un vous fait du mal, vous avez apporté du bien, il vous a donné du mal, est-ce que vous êtes capable de remettre une deuxième couche de bien en disant, écoute, je ne vais pas parler, je vais faire pour toi. Il y a un truc, Eliab, que tu n'as pas envie de faire, c'est que tu n'as pas envie de te mettre au milieu de l'arène là et de combattre ce fou furieux qui est en face. Eh bien, je vais y aller pour toi. Parce que si je gagne au nom de l'Éternel des armées, tout le monde, vous rentrez chez vous et on fait tous dodo dans un bon lit ce soir. Et donc, je vais y aller pour vous. Waouh! Waouh! Et il n'avait même pas le Nouveau Testament. Et il n'avait même pas entendu les paroles de Jésus. Alors, waouh, un homme comme ça. Ouh. Moi, je ne sais pas, vous, ça ne vous parle pas peut-être, mais moi, ça me montre tout ce que j'ai besoin d'atteindre avec la grâce de Dieu. Et vous savez ce que Dieu va faire ? Dieu va voir un homme comme ça et Dieu va dire, ok, sur ce gars-là, je parie tout. Et Goliath, il va faire une énorme erreur. Goliath va faire comme Eliab la première partie. Il va dire, ouais, t'es un petit rien, t'es un minus. Mais puis il va dire des insultes contre le Dieu d'Israël. Ah là 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 là, ligue rouge, mon gars. T'es mort. Parce que tu peux m'insulter, mais touche pas au Saint-Esprit. Juste, je vous donne une dernière remarque. Je passe trop de temps, je suis désolé. Mais une dernière remarque. Quand vous êtes un conflit familial, ne mettez jamais, jamais, jamais Dieu dans votre conflit. Pour moi, c'est un péché comme utiliser le nom de Dieu en vain. Quand vous m'utilisez le dimanche, après-midi, la prédication du matin pour régler des... Je vous en veux. Vous n'utilisez jamais. Le message est pour vous, ce n'est pas pour votre famille. C'est pour toi qui l'as entendu, que Dieu te reprend, ce n'est pas pour que tu ailles reprendre l'autre avec. Et voilà ce que va faire l'erreur de Goliath, c'est que Goliath il va commencer à jurer contre le nom de Dieu. Et là-dessus, David lui va dire, attention, tu marches contre moi avec une épée, une lance, un javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Mais le problème, c'est que tu as insulté le Dieu des bataillons d'Israël. Et pour cela, ta vie va se raccourcir très, très prochainement. Boum, une pierre terminée, c'est fini. Ah, il ne fallait pas insulter le nom de l'Éternel. Donc je vous en supplie, quand quelqu'un va mal, n'utilisez pas le nom de Dieu, parce que c'est une arme atomique. Et vous ne la maîtrisez pas, et laissez ça à Dieu. Vous êtes toujours là ? Vous avez une famille comme David ? Vous inquiétez pas, la belle famille c'est pire, grand 2. La belle famille, encore pire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, il faut que je gagne du temps, donc je suis obligé de couper un petit peu, mais David va être accueilli par Saül, parce que Saül va dire, waouh, c'est qui ce garçon ? Vous voyez ça à la fin du chapitre 17. Il va dire, mais ce gars, c'est le garçon d'Isaïe, d'accord ? À partir de ce jour-là, Saül le prit à son service et il ne le quitta plus. Donc, David va être d'abord adopté. Vous savez que dans les familles avec lesquelles vous traînez, il peut se passer des choses après. Au début, c'est simplement une famille adoptive, ça va finir par être une belle famille. Ne crois pas que, au début, Saül n'est pas en train de se dire, oh, il y a un plan de mariage derrière. Mais la vérité, c'est que les mariages, ça se fait dans les gens qu'on connaît. C'est pour ça que je vous dis, choisissez vos amis. Parce qu'il peut arriver des trucs qui n'étaient pas prévus au départ. Et si vous êtes mal entouré, alors, une belle famille, encore pire. Alors, ça a bien commencé. Vous savez, en général, les périodes de fiançailles, ça se passe toujours pas trop mal. Tout le monde fait des efforts, même les pires des belles familles font des efforts au début. Et puis après, il se passe un truc. Bon, est-ce que vous visualisez Saül ou pas ? Vous avez une image de Saül dans votre tête ? Vous le voyez comment ? Petit ou grand ? Très grand, très grand. C'est un beau mec, un beau mâle. Un gars qui, quand il était derrière les bagages, il ne pouvait pas se cacher, il dépassait tout le monde. Il sortait du lot, quoi. George Clooney, quoi. What else ? Non mais c'est... Il passe, du coup. Saül. Sauf que ce qui se passe avec les belles familles, c'est pas forcément mal intentionné, mais quand les gens parlent, et les gens, c'est un peu les gens, je ne vous demande pas de chercher des prénoms, il y avait des femmes bien intentionnées qui ont vu George Clooney, pardon, Saül passer en revenant d'une bataille. Et puis ils ont dit, waouh ! Saül, il en a eu 1000 ! Saül dit, ouais. Mais il y avait David à côté derrière. Puis là, je ne sais pas s'ils étaient encore un peu plus faux-folles, si c'était comme un The Voice Starac ou quoi. Il y en a dit, oui, mais David, il en a eu 10 000 ! Et ce jour-là, elles n'étaient pas mal intentionnées, les femmes d'Israël. Mais il est dit au verset 8, elle dansait, elle chantait avec des chœurs alternés tout en disant Saül a vaincu ses milliers, David ses dizaines de milliers. Saül le prit très mal et se mit dans une grande colère. Elles en attribuent 10 000 à David, dit-il, et seulement à moi seulement 1 000 ? À moi, Georges ? Non, c'est pas dans le texte. C'est bien, c'est pour vérifier que vous suiviez. Saül regarda David d'un mauvais œil. Et ça, c'est la grande différence entre Saül et David. C'est que Saül va, dès le début, choisir d'avoir un mauvais regard. Et ça se décide dans le cœur. Il va accepter que la graine d'amertume se plante en lui. il va accepter, il va pleurer sur lui-même, il va dire « oui, il va me piquer la royauté, etc. » Il va entretenir ça et ça va pousser un chêne d'amertume dans cet homme qui va la battre. À partir de ce moment-là, il perd la tête. Même un esprit mauvais vient en lui ce jour-là. Quand tu regardes quelqu'un avec un mauvais œil, tu ouvres la porte à des trucs mauvais. Mauvais. À chaque fois que tu critiques, « oui, mais c'est quand même un peu vrai, parce qu'au final, c'est bien David qui va prendre la royauté derrière. » Quand tu penses négativement des autres, tu ouvres la porte à des choses mauvaises. Et tu vas pas avoir l'impression de faire le mal, mais je peux te dire que tu viens d'ouvrir ton cœur à un terrain mauvais. Et c'est ce qui se passe, ça va se dégrader, de la jalousie, il va avoir un mauvais regard, du mauvais regard, il va passer à la violence. Et deux fois, et c'est le texte après, il va essayer de planter une lance dans le cœur de David qui va l'esquiver alors que David est simplement là pour lui faire de la musique. Saül était capable de faire des déclarations extraordinaires. Saül venait voir David et lui disait « waouh, t'es génial, t'es meilleur que moi ». Lisez un petit peu les rapports avec son beau-père, c'est très complexe. C'est des « je t'aime moi non plus », que « je t'aime plus », que « je t'aime moins », que « je t'aime tout ». C'est un truc complètement addictif. À chaque fois, il revenait en disant « David, mon petit chéri, je t'aime, je ne te ferai jamais du mal ». 15 minutes plus tard, « je vais te planter !» Il est complètement lunatique, complètement, il n'a plus sa tête. Et il aime David de façon incroyable, il le déteste. Mais vous voyez, les cycles sont de plus en plus courts, dans le sens que la partie où je l'aime bien et je te demande pardon devient de plus en plus courte, et la partie où je te déteste et je veux te planter devient de plus en plus longue. C'est ce que j'appelle une addiction très destructrice. Vous avez suivi un petit peu les informations ? Je ne vous demande pas de regarder Énergie 12. Mais maintenant, c'est sur TF1, c'est sur Le Monde, Le Figaro et tout. Et ça fait la une. Celle qui était là en disant « Mon Thomas, mon chéri, mon smack d'amour, on ne se quittera jamais, on fera tous les plus beaux bébés du monde. » Je ne sais pas, il y a l'enquête de police qui est en cours, mais le mec, il a été troué quand même. Alors, moi, je préfère être moins aimé publiquement et passer des nuits plus calmes. Je préfère moins de déclarations officielles et plus de paix non officielle. Parce que des personnes comme ça, ou des belles familles, qui sont capables de vous donner des tonnes d'amour, mais après, pour vous maudire à ce point-là, excusez-moi, mais non merci. Il va chercher à le tuer. Et il va devenir manipulateur. Profondément manipulateur. Vous savez comment ? Il va utiliser ses filles comme appât. Au début, ça paraît bien. Oh, je suis désolé, je suis un peu long aujourd'hui, il faut que j'accélère, mais en même temps, c'est tellement bon le texte. Regardez ce qui se passe dans 1 Samuel 18, verset 17. Un jour, Saül dit à David, « Je suis prêt à te donner ma fille aînée, Merab, en mariage, à condition que tu me serves comme un vaillant guerrier et que tu livres les combats de l'Éternel. » Amen ! Wouh ! Je sers Dieu et j'ai une charmante chérie. Alléluia, je prends. Et il dit, « Je prends, David, il dit, je prends. » Il dit, « Mais c'est magnifique. » Il dit, « Moi ? Mais que vaut ma vie ? Quelle importance est ma famille, mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi ?» Sauf que la fin du verset, il se disait, et Saül, regardez le manipulateur, il disait, il vaut mieux que ce ne soit pas moi-même qui attente à sa vie, mais plutôt les Philistins. Je vais le faire aller prendre des risques dans la bataille pour qu'il se fasse planter par les autres. Vous n'aimez pas votre belle famille ? Finissez par la bénir, parce que franchement, vous n'êtes peut-être pas à ce niveau-là quand même. Il a un beau-père manipulateur au maximum. Et David choisit d'être, mais des fois j'ai envie de dire, mais réveille-toi David, oh ! Arrête d'être naïf ou quoi là ? Tu la vois, tu le vois pas ? Mais non, non justement, David choisit de soupçonner le meilleur. Et ça m'enseigne. Parce que c'est trop facile de ne pas être naïf des fois. Oui, t'es intelligente, oui, t'es intelligent, mais t'es tellement intelligent que tu vas finir par soupçonner le mal. Et des fois, il vaut mieux se tromper en soupçonnant le bien que d'avoir raison en pensant qu'au mal. Parce que David va rester naïf, si bien que, bien sûr, quand il va sortir de la bataille et qu'il aura pris plein de risques, vous savez qui c'est qui va épouser Merab ? Un autre. C'est un manipulateur, le futur ex-beau-papa. il a donné sa fille à un autre pendant qu'il était au combat. Mais ça vous rend fou, ça, mes amis, normalement. Eh bien, David, non, ça ne le rend pas fou. Il dit, mais c'est génial, il y a une victoire merveilleuse, c'est que ce n'était pas la fille pour moi. Ah, waouh. Saül refait une manipulation. Parce qu'une fois qu'il a grillé son joker une fois, il se dit, il n'est pas bête non plus, David, il va comprendre. Donc Saül va utiliser des intermédiaires. C'est vraiment un régal, je n'ai pas le temps de tout expliquer. Dans le chapitre 18, vous allez voir, il va aller voir des intervenants, des conseillers qui vont faire des petits racontes. Tu sais que le roi finalement donnerait sa fille, la seconde fille Michal, à toi si jamais tu vas tuer 100 Philistins. Et David, au lieu d'être amer et négatif, il dit, il n'y a pas de problème, j'y vais. J'y vais. C'est pour l'Éternel des armées, j'y vais. Au lieu d'en faire 100, il en fait 200. Tu sais, des fois, quand les autres, quand ta belle famille te demande ça, tu veux utiliser la méthode de David pour réussir, fais ça. Il te demande de bénir ça, bénis comme ça. Mais pasteur, déjà, ça me coûte de... Ouais, ben, y a un moment où c'est justement ça, l'Esprit de Christ. Et c'est pour ça que David était un homme selon le cœur de Dieu. Parce que c'était quelqu'un qui était profondément généreux et qui refusait l'amertume. Et alors, un moment vient... Il arrive avec les 200 Philistins, tout le monde est au courant. Et là, il y a un moment où Saül, il est bouche bée, parce qu'au verset 28, Saül vit très clairement que l'Éternel était avec David et que Michal, sa propre fille, aimait David. Il y a un moment où les adversaires, l'adversaire de ton âme, ne pourra pas nier que l'Éternel est avec toi et que toute arme forgée contre toi est brisée, que toutes ces manœuvres, ces manipulations, tout sera explosé si l'Éternel décide de te bénir. Et à chaque fois même que David a pris des risques qu'il n'aurait peut-être pas pris s'il n'avait pas eu un beau-père aussi farfelu que ça, et ben du coup, ça lui a donné une réputation et une réussite bien plus grande grâce à beau-papa qui est manipulateur. Dieu a fait tourner le mal en bien. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire d'un bédouin. C'est une histoire qu'on se raconte entre bédouins, paraît-il, dans le désert. Lorsqu'il y avait un bédouin, je n'ai pas été bédouin dans ma vie, mais bon, j'ai appris quand même l'histoire. Il y avait un bédouin qui, un jour, avait un âne qui était très gentil, respectable, super. Mais ce bédouin a regardé son âne d'un mauvais œil. Comme ça eut. Il a regardé l'âne d'un mauvais œil et il a dit Billy, c'était l'âne. Il a jeté le Billy au fond d'un trou, en plein désert, dans une crevasse, en plein milieu du désert. Et le petit âne était balancé là-dedans. Mais le petit âne, au fond de son trou, il regardait le ciel. Et quand le méchant maître est arrivé et qu'il a vu que l'âne n'était pas mort dans son trou, ça l'a énervé. Tu sais, quand l'adversaire ne peut pas te détruire, il va t'en mettre encore plus. Le maître a pris une pelle, l'a chargée de sable et l'a balancée dans le trou. Et l'âne a tout pris sur la tête. Deux possibilités. Soit tu regardes par terre et tu dis, personne ne m'aime, je vais me suicider. Soit tu dis, je continuerai à regarder le ciel. Quoi que soient les choses qui me tombent dessus. Et l'âne a pris ses épaules et il a fait ça. Tchic, 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 tchic. Et tout le sable est tombé, il a marché sur le sable, il a tassé le sable. Mais le lendemain, le maître, il voit l'âne, encore là, deux. Tchic, tchic. Et Billy, je secoue. J'essaie de le faire bien, mais je ne suis pas un âne. Hein. Enfin, discutable. Et il monte. Troisième jour, tu me rends dingue, Billy. Trois pelletés. Et la petite histoire nous dit qu'à la fin, quand il est venu voir l'âne, il n'y avait plus d'âne. Parce qu'il n'y avait plus de trou. À force de jeter du sable, il avait comblé le trou et l'âne était parti. Vous comprenez ça? La Bible dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher dans des lieux élevés. Tu ne peux pas empêcher qu'il te tombe dessus des sauts de calomnie. Mais tu peux mentir. Tu ne peux pas empêcher que ta famille ou ta belle-famille colporte sur toi des rumeurs terribles. Mais tu peux choisir de louer et de bénir. Alors, certains vont me dire, « Oui, mais pasteur, est-ce que ça se passe aussi bien que ça tout le temps ?» Tu es indestructible tant que Dieu a décidé qu'il t'avait l'approbation de Dieu. La seule chose que tu dois veiller, c'est garder l'approbation de Dieu. Et pour cela, aie un cœur bienveillant. C'est veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Garde un cœur bienveillant. Ne cède jamais à l'amertume. Ne fais pas l'erreur de Saül. Garde l'esprit de David. Et il va garder cet esprit Et au final, plus Saül lui en envoie et plus il monte. Sauf qu'il y a un jour, je dois vous dire que j'aurais aimé que Dieu enlève tous les problèmes dans la famille de Saül et donc de David. J'aurais aimé vous dire, oui, mais Dieu a changé le cœur d'Éliab. Mais Dieu a changé le cœur de Saül. Et après 3 réunions d'intercession, 2 impositions des mains et 8 prières suffisamment longues, Dieu a changé. Non, non. Saül est resté Saül. Ah mais pasteur, ça touche ma foi, je ne comprends pas. Non, ça a tellement été abusif que pendant plusieurs années, David a dû partir et fuir et aller de lieu en lieu pour se mettre simplement en sécurité puisqu'il savait que sa vie était menacée. Voilà la différence. Regardez, c'est assez fin ce que je dis. Dieu ne vous demande pas d'oublier ce que l'autre te fait. Ce n'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est de dire « Je sais ce que tu me fais, je me mets simplement en sécurité, mais je refuse de te rendre le mal pour le mal. » Je choisis de dire du bien sur toi, même si toi tu dis du mal sur moi. Je choisis de me positionner dans le positif quand toi tu essayes de me faire glisser vers le négatif. C'est ça le pardon. Le pardon, c'est dire je dis encore des choses, je suis capable de prononcer des paroles de bénédiction. C'est ce que Jésus dit, là, bénissez ceux qui vous font du mal. Bénissez et ne maudissez pas. Ta langue vient de ton cœur. Soigne ton cœur, soigne ta langue. Et David est encore éprouvé et il va de lieu en lieu et il se cache avec son beau-père fou furieux qui essaye de le tuer. Je voudrais vous donner une histoire parce que ça m'a vraiment marqué et je rends hommage à un de mes amis proches. Vous savez, lorsqu'il a rencontré une chérie et qu'il a demandé sa main, la belle-mère a dit « Même pas t'y penses. Tu peux courir mon gars. » Jamais je te donnerai ma fille. C'est pas pour toi. Mais la fille était amoureuse. Et le gars aussi. Et c'était tout à fait bien, ils s'aimaient. Alors ils sont allés voir le maire. Ils sont allés voir l'officier d'état civil, ils ont planifié le mariage. La future belle-mère, elle est allée voir l'officier d'état civil. Elle a dit, monsieur, je soupçonne un mariage blanc. C'était deux noirs. Ça ne marchait pas. C'est vrai, c'est la blague de l'épouse elle-même. Elle dit, mais vous me voyez, on est deux noirs, qu'est-ce que vous... L'officier d'état civil a dit, bon, là-dessus, je vous l'accorde. Et il a accordé le mariage. La belle-mère était folle furieuse. Et pendant 20 ans. Alors, je ne vais pas vous cacher que de temps en temps, il devait y avoir des rancœurs d'amertume. Maman n'a pas leur mariage. Cette belle-mère-là, franchement, est-ce qu'on va lui envoyer les photos des enfants? Est-ce qu'on va lui envoyer les cartes? Est-ce qu'on va la bénir quand même? Oui. Et mon ami a eu la sagesse de toujours être celui qui dit à sa femme, bénis ta maman, continue à lui parler, ne coupe pas le lien, ne coupe pas le lien, bénis-la. Oui, mais bénis-la. Bénis-la. Au bout de 20 ans, mes amis, celle qui n'était pas là au moment du mariage civil, je l'ai vu dans cette église ici, au premier rang. Lorsque Dieu avait tellement touché cette famille, ce couple-là, ils ont tellement été remplis de l'Esprit de Dieu qu'un jour ils sont venus se marier devant Dieu, 20 ans plus tard, dans une église. Et la maman, elle était là! Alors elle devait être mal sur sa chaise, mais ça ne me regarde pas. Elle devait se dire, mais que j'ai été bête d'être amère comme ça. Et sa fille et son gendre étaient là et louaient Dieu, et elle aussi ce jour-là. Ça prend 20 ans, mes amis. C'est pour vous éviter les raccourcis de croire qu'en une prière, en 20 minutes, un clincement de doigts, votre famille, elle est réglée. Ce n'est pas ce que je vous dis aujourd'hui. Je vous dis que Dieu vous fait monter si vous gardez un cœur vrai et bénissant, même dans les pires situations. Et David va se retrouver dans un moment, et je ne vais pas te mentir, j'arrive à ma conclusion. Il y a un moment où David était au bout du rouleau et il n'en voulait plus. Il ne voulait quasiment plus vivre. Vous lisez le psaume, il a écrit 2 psaumes dans une caverne parce qu'il était obligé d'aller dans les cavernes. Pour tout vous dire, au début, il ne savait même pas où aller. Il était allé à Ramah dans les huttes des prophètes. En gros, il y avait une espèce d'ermitage dans le désert, des petites grottes de prophètes dans lesquelles les prophètes se réunissaient autour du vieux grand prophète Samuel. Et c'est une leçon, avant de conclure, c'est une leçon pour toi. Lorsque dans ta famille, tu deviens dingue et que ta vie est menacée, va à l'église. Alors je te le fais dans la langue que tu veux, mais il y a un moment où si tu peux parler à personne dans ta famille, plutôt que devenir amer, viens louer Dieu, fais-toi une soirée de louange. Au début, ça va te faire bizarre de louer Dieu dans un environnement comme ça. Mais tu vas commencer à dire, Seigneur, ma langue te bénira tous les jours. Et David est allé voir Samuel, et il a ouvert son cœur au prophète Samuel. Et certainement le prophète Samuel l'a encouragé. C'est une conversation secrète, la Bible ne nous dit pas ce qu'ils se sont dit. Mais je sais que David a pu vider son cœur auprès du prophète Samuel. Quand tu viens à l'église, tu es venu aujourd'hui, je ne sais pas si tu vas mal, si dans ta famille ça ne va pas bien ou si dans ta belle famille, mais viens à l'église, passe du temps à l'église. Viens faire une soirée de louange, surtout si ça ne va pas. Ne va pas t'isoler pour mourir. Viens louer le Seigneur et dis, Seigneur, le peu d'énergie que j'ai, je le passerai avec les hommes de Dieu, avec les femmes de Dieu. Et c'est ce que va faire David. Et puis il y a un moment où, et c'est vrai aussi, vous ne pouvez pas vivre à l'église, on ne va pas installer des matelas ici. Peut-être que ça serait un rêve, ça s'appelle un monastère, mes amis. On n'est pas un monastère ici. Donc, le lundi soir, eh ben, tu es seul avec ta famille qui n'est pas mieux que le dimanche matin. Ta belle famille qui est toujours la même depuis le dimanche matin aussi. Et à ce moment-là, il y a des temps où tu te retrouves seul. Et dans ces moments de solitude, David a écrit des psaumes. Et il a écrit des psaumes extraordinaires pour que toi, justement, tu puisses aller mieux quand ça ne va pas bien. Il a écrit notamment le psaume 57. Et il dit dans le psaume 57, il dit, mais je crie, où est-ce que je vais trouver du refuge? Et il dit, et d'ailleurs, c'est la preuve, hein, c'est un psaume qui a été écrit dans la caverne, caverne d'Adoulam. Et il est dit au psaume 57, à propos de ses persécuteurs, il me harcèle. Il me harcèle, il m'assaille. En hébreu, le mot assaillir ou harceler, c'est le mot. J'en ai marre de beau papa. Et tu as le droit de le dire, mais dis-le à Dieu. Dis-le pas à beau papa, ni à belle maman, ni à cousin un tel. Fais pas de plan comme lui. Réagis avec l'esprit de Dieu. Vide ton sac à Dieu. Et il écrit ça, et je vous quitte. On peut lire le psaume 145. Allez, c'est 142, faut se quitter, c'est l'heure. 142. Oh, il y a tellement de puissance prophétique et tellement d'inspiration dans ce texte. Je vais le lire en entier. C'est quelques versets, c'est 8 versets. À pleine voix, je crie vers l'Éternel. C'est une méditation de David, prière qu'il prononça quand il était dans la caverne. À pleine voix, je crie vers l'Éternel. À pleine voix, je supplie l'Éternel. Et devant lui, je me répands en plainte. En sa présence, j'expose ma détresse. Quand mon esprit est abattu en moi, c'est toi qui sais sur quel chemin je marche. Sur mon chemin, ils m'ont tendu un piège. Regarde à droite, il n'y a plus personne. Pas même un seul. Lundi soir, il n'y a personne avec toi. Hein. Pas même un seul. Pas de coup de fil de ton pasteur, pas de coup de fil de ta meilleure amie, tu es tout seul. Je ne sais plus. Pas même un seul qui veuille me connaître. Je ne sais plus où chercher un refuge. Et nul ne veut s'inquiéter de ma vie. Ô Éternel, je fais appel à toi et je m'écris. Tu es mon seul abri, tu es mon seul bien au pays des vivants. Sois attentif à mes supplications, car j'ai touché le fond dans la misère. Délivre-moi de mes persécuteurs, ils sont trop forts, bien trop forts, bien plus puissants que moi. Libère-moi pour que je puisse te rendre hommage. C'est pas libère-moi pour que tu les punisses, c'est libère-moi pour que je puisse te louer. Encore plus, car je suis en prison. Et là, il y a une phrase, c'est bizarre, on n'arrive pas, ça ne s'affiche pas sur nos écrans, mais ça s'affiche dans votre Bible. Il y a un verset 8 qui dit « Autour de moi, les justes feront un cercle quand tu m'auras comblé de tes bienfaits. » Et moi, là, je trouve ça extraordinaire parce que c'est le texte que David a écrit lorsqu'il était dans la caverne. Et dans la caverne d'Adoulam, vous voyez ça au chapitre 22 du livre de Samuel et je vous quitte là-dessus. Au chapitre 22, ça commence avec deux versets incroyables. Il dit que David quitta la ville de Gath pour se réfugier dans la caverne d'Adoulam. Et là, ouh! Et là, il se passe que David alla se réfugier dans la grotte d'Adoulam, verset 1er. Lorsque ses frères et tous les membres de sa famille l'apprirent, ils allèrent l'y rejoindre. Là, je m'attendais, si vous aviez suivi depuis le début, vous devriez dire Amen. Ça veut dire que Eliab, ce jour-là, quand David écrit le psaume et qu'il dit « Ils vont former un cercle, ils ne voient personne. » Mais à la fin, il y a un bonhomme qui arrive. Hey, c'est le frangin. Il revoit son frère venir dans la caverne avec lui, Eliab, celui qui disait « t'es un moins que rien, tu viens, t'es un bouseux ». Il vient et lui dit « David, je vais être avec toi. Attends Eliab, attends, t'as pas compris là. Là, je suis un fuyard là. On risque de mort avec Saül. » dit, il n'y a pas de souci, je serai avec toi dans cette détresse. Et à partir de ce jour-là, tous les frères de David furent avec lui. Tous. Il avait pas sa famille, Dieu lui a donné une belle famille, il n'a plus de belle famille, Dieu lui redonne sa famille. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Dieu est tellement plus grand que toutes les combines humaines. J'aurais pas parié 2 euros sur que Eliab revienne un jour. Merci Seigneur. Alors, vous allez me dire, c'est magnifique ça. Et avec Eliab, il y avait d'autres qui sont arrivés. D'ailleurs, il est dit qu'il y a aussi tous ceux qui étaient dans les détresses, parce que quand tu vis mal, eh ben, tu es capable de comprendre les autres. Tous ceux qui avaient des dettes, pour certains, ça ne devait pas être très juste, mais bon, des mécontents, tous les mécontents se rallièrent à lui. Et là, je me suis dit quand même, waouh, c'est dangereux. Parce que des mécontents, ça vous pollue. Si vous vivez qu'avec quelqu'un qui est dans la critique, vous finissez par devenir très cynique et très critique. Et je loue Dieu de ce que David, il va rester là-dessus. Ça va être le chef des mécontents, mais il ne sera jamais mécontent. Tu as le droit d'être avec des mécontents que tu aides, mais fais attention. C'est toi qui dois les influencer et non pas l'inverse. Parce qu'il y a bien un jour où les mécontents vont arriver près de David et vont lui dire, Dieu te met à disposition la vie de Saül, tue-le. Tu règles le problème dans les 5 prochaines minutes. On n'entend plus parler, tu prends la royauté que Dieu t'a promise, t'as raison en plus. Et David dit, je ne toucherai pas à ça. Tant que l'Éternel voudra que Saül soit en vie, ce n'est pas à moi de faire du mal et de me venger tout seul. Je refuse de me venger. Et il va voir Saül et il va donner de champ sur champ. Et dira à Saül, j'aurais pu te tuer, mais je choisis de te bénir. J'aurais pu te faire du mal, j'aurais pu dire du mal de toi, mais je choisis de te bénir. Celui dont le regard est bienveillant sera béni. On ferme les yeux ensemble. Tu te plains de ta famille. Tu te plains peut-être de ta belle famille. Humainement, tu as des bonnes raisons. Spirituellement, tu as tort. La seule chose que tu devrais faire, c'est de retenir le meilleur. Retenir le meilleur au sujet de tes parents. Retenir le meilleur au sujet de tes enfants. Refuser l'amertume. Je te dis de ne pas non plus t'exposer. Si tu es dans une situation dangereuse, tu as le droit de te mettre à l'abri. Mais en aucun cas, ne cède pas à la tentation de maudire, dire du mal. Aujourd'hui, on est comme David lorsqu'il a fui auprès du prophète Samuel. Vous êtes auprès du prophète Samuel, il y a plus que le prophète Samuel ici, il y a le Saint-Esprit. Jésus a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, et donc Jésus est là. On est auprès de Jésus aujourd'hui et je voudrais donner ce challenge. Il y a quelqu'un qui a été blessé, méprisé, dévalorisé, dégradé, peut-être calomnié par des membres de ta famille ou de ta belle famille. Cet après-midi, regarde cela droit dans les yeux, en face. Est-ce que tu veux bénir cette personne, oui ou non? Si tu décides de secouer le sable que cette personne a jeté sur toi, et de le mettre sous tes pieds et de dire « Je continuerai à monter et je regarderai vers le ciel. » Alors lève-toi ta place maintenant. Tu penses à cette personne, tu te lèves à ta place et tu relèves ce challenge en disant « Je secoue le sable et je bénis. » Oh, je secoue le sable et je bénis. Oh, alléluia. Dieu est présent ici. Je peux vous dire que là où il y a le pardon, là où il y a l'esprit de Christ, Satan est très très mal à l'aise. Il est en train de perdre un combat aujourd'hui. Il veut que tu te battes contre Eliab pour que tu oublies qu'il y a des Goliaths. Et Dieu te dit, bénis Eliab et continue ta route. Commence à bénir cette personne de ta famille ou de ta belle famille qui t'a fait du mal. Prononce une parole, ça va te faire bizarre, ça va t'arracher la langue peut-être au début. Tu n'as pas l'habitude, mais commence à dire Seigneur, je veux que tu fasses du bien à cette personne. Je te demande pardon pour mes pensées d'amertume vis-à-vis d'elle. Je te demande pardon pour les fois où j'ai revendiqué mes droits. la force, je ne l'ai pas par moi-même, mais la force est pour ceux qui se confient et demeurent en l'Éternel. Je lève les yeux vers les montagnes. Tout me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre et qui maîtrise mon avenir, mon passé, mon présent. Seigneur, je te prie pour que tu envoies un vent qui souffle, qui balaye le sable que mes bien-aimés ont eu sur leurs épaules, qu'ils choisissent aujourd'hui de dire « je laisse tomber tout ça et je bénis, je rentre dans une étape de bénédiction, je veux la prospérité pour ces personnes, je veux que le bien de Dieu touche cette famille-là. Seigneur, je te prie, je ne les ai pas choisis, mais je choisis de les bénir. Je ne les ai pas choisis, mais je choisis qu'ils aient de la réussite. Seigneur, ce n'est pas au sujet de mérite, c'est tout est grâce là-dedans. Parce que je veux être comme toi. Alléluia. Dieu est sur toi là en cet instant. Dieu est là. Dieu est là pour bénir quelqu'un. Oh, je suis tellement heureux parce que je suis sûr que c'est quelque chose de spirituel qui se débloque dans ta vie aujourd'hui. Ah, t'as bien fait de venir. Parce que Dieu a entendu tes supplications, tes larmes. Il sait ce que tu endures. Mais il veut te t'amener plus haut. On va tous se lever ensemble.